Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Luc Bussière, donc je suis père de 4 grands-enfants qui ont eux-mêmes des enfants, grand-père de 6 petits. Et adolescent, je n'aurais jamais pensé que je sois comme ça dans un milieu éducatif, parce que l'école et moi, ça faisait 2, et les enfants, ça fait du bruit. Donc vraiment, encore aujourd'hui, je suis étonné. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'école champ de vision, bataille pour des visions du monde incompatibles. Et c'est ce que j'aimerais aborder. Et au travers de ça, peut-être, vous allez sentir une partie de notre cœur qui vibre, bien sûr, aussi comme le vôtre, pour les enfants et pour la mission que Dieu nous a donnée. Un plan rapide, la notion de champ de bataille, la notion de vision du monde, une école comme lieu de transmission d'une vision du monde, la nécessité de transmettre et de porter des bonnes lunettes, pour reprendre l'expression de Jean Calvin, et ce but de l'éducation qu'on retrouve dès la tradition juive, c'est non pas comme on l'a vu ce matin, de transmettre seulement des connaissances, mais de la sagesse. Alors, la notion de champ de bataille, alors tout le monde sait qu'on est dans un champ de bataille, on l'a entendu ce matin avec la persécution, avec les vents contraires, on les a tous. Et j'aimerais dire que beaucoup de nos enseignants dans les établissements évangéliques sont également enseignants dans le public. Et donc il n'y a pas du tout, on n'est pas là de frontière, d'opposition entre les deux. Il y a une mission complémentaire avec un même champ de bataille que l'on vit chacun, peut-être un peu différemment. Nous sommes dans des temps de crise, je ne m'étends pas, vous le savez, en particulier crise d'identité. On est quand même dans un monde où c'est quand même étonnant que des enfants... déscolarisation d'enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui ne savent plus qui ils sont. Phénomène de djihadistes français. On se demande mais comment ça se fait qu'après 15 ans, 20 ans de formation, ils veulent se faire exploser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Crise de transmission. La transmission, alors ça, beaucoup d'autres en ont parlé, mais on ne va pas s'étendre beaucoup là-dessus, mais une vraie crise de transmission. C'est quoi la transmission? Crise des représentations. Comment se représente-t-on le monde? Notre culture, crise philosophique qui est la base de la perception et de l'idée qu'on se fait de l'homme, de l'éducation, de la connaissance, et puis crise épistémologique, qu'est-ce que la connaissance? On pourrait en rajouter plein d'autres, mais dans ce temps de crise, l'idée c'est que, comme il a été dit ce matin, on voit ça comme un temps d'opportunité également. Donc, temps de guerre, on connaît l'apôtre Paul, hein, qui est à Corinthe, qui dit « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, cette sagesse grecque qui va en confrontation avec la sagesse hébraïque, et donc cette champ de bataille déjà au 1er siècle, il est encore actuel aujourd'hui. Jacques 3, cette sagesse, il parle d'une sagesse qui vient d'en haut et puis une sagesse qui vient d'en bas, et intéressant de voir cette notion de sagesse liée avec les traits de caractère: pureté, pacifique, modérée, conciliante. Il ne s'agit pas en premier lieu donc de traits de cognitifs. Donc nous avons une guerre entre deux sources, c'est pas récent. C'est vieux comme le monde, ça a commencé dans la Genèse, entre l'arbre de la vie, qui nous parle du Christ, je pense, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette volonté farouche de l'homme de vouloir connaître de façon indépendante et de vouloir être lui-même le critère de ce qui est bien et ce qui est mal, et le critère d'une connaissance véritable. Donc cet humanisme qui va donner naissance à bien des courants, dont l'humanisme athée, etc., c'est un des problèmes majeurs qu'on rencontre dans toute l'histoire, et en particulier qui va se répercuter dans l'histoire de l'éducation. Donc, la guerre, quelle vision du monde? Jésus, qui, avant de monter au ciel, donne cet ordre à son Église, ordre de mission, enseigner les nations. Et souvent, je dis, si l'Église n'enseigne pas les nations, ce sont les nations qui enseignent l'Église. C'est souvent ça, et aujourd'hui, il y a un peu cette bataille qui est là, et on voit l'école aussi comme un lieu privilégié, c'est pas le seul, mais un lieu privilégié de transmission d'une vision du monde. d'une pensée. Et quand on voit le défi que Jésus nous lance, que la parole nous lance, d'aimer Dieu de tout son cœur, mais aussi de toute sa pensée, eh bien on se rend compte que qu'est-ce que ça veut dire pour nous Français, aimer Dieu avec sa pensée, quand on apprend à penser sans Dieu. Vision du monde, définition, conception, toute idéologie, philosophie, théologie, tout mouvement, toute religion, qui propose une approche complète de la réalité, qui donne une compréhension de Dieu, du monde et des relations de l'homme avec Dieu et avec le monde. Et donc les visions du monde vont bien sûr déterminer les approches éducatives jusqu'aux pédagogies. Et donc en fait l'idée de temps en temps de creuser un peu pour voir qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui est derrière. Les visions du monde, c'est un modèle opératoire, c'est une idée qu'on se fait sur le monde. Vous savez, le mot idée, c'est icon en grec, et icon, idée, icon, ça va donner aussi idolâtrie. Les idées tordues donnent des systèmes idolâtres. Et donc, l'éducation, c'est un monde aussi de transmission d'idées. Et donc, voilà, alors les idées basées sur ce qu'est la vie, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'un homme, etc. Ça commande les choix des valeurs et donc des comportements. Donc l'éducation, vue comme une transmission toujours d'une vision du monde, qu'elle soit explicite ou la plupart du temps implicite. Donc les questions qui définissent ce beau gâteau de la vision du monde, qu'on mange tous les jours et parfois dont on ne connaît pas les ingrédients, ces grandes questions, comment est-ce que je puis savoir qu'une chose est vraie, le rapport à la vérité, qui suis-je, grande question, d'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis là, où est-ce que je vais, comment je dois vivre, y a-t-il des absolus, etc. Les réponses à ces questions donnent une vision du monde, et les réponses ou l'absence de réponses à ces questions peuvent déterminer la richesse ou la pauvreté d'une vision du monde. Donc, les visions du monde, alors, on en a plusieurs, hein, quand elles sont exprimées, ce sont des philosophies, humanisme athée, dualisme, relativisme, matérialisme, empirisme, rationalisme, tous les ismes possibles, qui sont bien sûr les agents d'influence premiers de la façon de voir l'enfant, le rapport à l'enfant, le rapport à l'éducation et au monde. Colossiens 2, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Je me rappelle, j'étais longtemps étudiant en philosophie, je cherchais la vérité, je n'étais pas chrétien. C'est à la fin de mes études que j'ai rencontré un chauffeur routier de poids lourd qui m'a parlé de Jésus et qui m'a amené au Seigneur. Et pendant tout un temps, j'ai cru que là, tout ce que j'avais appris, tout ce qui est philosophie, éducation, etc., eh bien, était à l'opposé, la formation intellectuelle était l'ennemi de la foi. Et il a fallu des années pour que je comprenne que l'intelligence, c'est Dieu qui la donne et qu'il y a une philosophie selon lui aussi. Et donc voilà, Jacques Maritain, philosophe catholique, qui est un des rares à avoir parlé de philosophie d'éducation, il dit « Toute théorie pédagogique est fondée sur une conception de la vie et ressortie par suite nécessairement à la philosophie. La pédagogie suit le flux et le reflux des courants philosophiques. Il n'y a pas de pédagogie neutre, ou bien elle n'est pas pédagogie. Tout pédagogue adore un Dieu. » Et il fait un exposé magistral sur l'adoration des différents dieux, de Jean-Jacques Rousseau qui adore la liberté, par exemple. Et donc l'éducation, ça va être au service, non pas de Dieu, mais de la liberté, conception de la liberté de Rousseau. Donc on voit qu'il n'y a pas de neutralité possible. Il n'est pas le seul à avoir détecté ça. Vous avez ce grand président Abraham Lincoln, la philosophie qui prévaut dans les salles de classe, c'est la philosophie du gouvernement des générations futures. Vous avez aussi Abraham Kuyper, ce protestant qui est devenu ministre en Hollande, qui a été à l'origine de l'université chrétienne d'Amsterdam. Il n'est pas de domaine de la vie, de la culture, dont le Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Le premier acte politique, c'était former une génération dans des facultés, dans des universités, où toutes les branches étaient vues selon une vision biblique du monde. Donc ça, c'est un pasteur réformé. C.S. Lewis, il n'existe aucun territoire neutre dans l'univers tout entier. Dieu revendique chaque mètre carré, chaque dixième de seconde, et Satan lui répond en faisant de même. Et pas de neutralité donc, et vous pourrez rajouter pas mal, non pas des versets, mais des citations de notre bien-aimé Vincent Peillon. L'école républicaine n'a jamais prétendu être neutre entre toutes ses valeurs. Si la laïcité a bien signifié la neutralité confessionnelle, elle n'a jamais signifié ni la neutralité philosophique, ni la neutralité politique. Donc on est bien dans un champ de bataille de vision du monde et la neutralité, croire en la neutralité dans l'éducation, c'est croire au Père Noël. Donc, Exode 20, tu ne te feras pas de représentation, dit l'Éternel, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et on se rend compte qu'en fait, l'école est un lieu de transmission de représentation, c'est-à-dire d'interprétation du monde, de la vie, de l'histoire, de tout. Tous les champs de la connaissance sont des champs à interpréter. Et donc là, les représentations véhiculées dans les systèmes d'éducation, sont pas neutres. Ce sont toujours des représentations. D'ailleurs, les changements de programme réguliers découlent toujours d'une philosophie qui change et qui évolue. Et donc, nous sommes dans des basculements de courants philosophiques qui donnent des basculements de programmes, d'idées, etc. Le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire, en fait, de toute sa pensée, ça va nous montrer que, au fond, le cœur de l'éducation, ça va être l'éducation du cœur. C'est-à-dire, c'est le lieu où l'on pense le cœur. C'est pas seulement le lieu des émotions, c'est pas seulement le lieu des sentiments, c'est le lieu, il y a des yeux dans le cœur. Et je pense, les pensées sont dans le cœur. Donc, toucher le cœur va être le grand défi de tous les éducateurs, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et donc, on parlera de Romains tout à l'heure, mais cette idée que la connaissance doit nous conduire à la reconnaissance, qu'on voit dans l'Épître aux Romains en particulier, on voit bien cette idée d'une pensée qui peut être soit vagabonde, c'est Martin Luther King qui dit, en se déracinant, en mangeant à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, la pensée, elle s'est perdue, et elle a perdu son origine, sa destination, elle est comme ballottée à tous les vents, et c'est le problème de la civilisation occidentale, dira Martin Luther King. Donc, nous avons des philosophes, des penseurs aussi au niveau de l'éducation, comme Cornelius Van Til, qui va mettre encore un pavé dedans. En plus, il n'y a pas de représentation neutre. Originellement, Adam et Ève étaient des vrais théistes, ils acceptaient l'interprétation de Dieu en rapport avec eux-mêmes, avec les animaux qui les entouraient, comme étant la vraie interprétation. Et puis vient le tentateur. Il a suggéré à Ève une théorie antithéiste de la réalité. Elle lui a ensuite demandé de juger elle-même ce qui lui était le plus raisonnable d'accepter. Et donc, proposer une autre interprétation. Donc la pseudo-neutralité n'est rien d'autre qu'un reniement de Dieu, dira Van Til. Les faits, dit-il, parce qu'on peut parler d'une école qui soit un lieu où l'on enseigne des faits, et que des faits. Et lui, il va se battre là-dessus en disant que les faits doivent toujours être interprétés. On ne transmet jamais des faits bruts, il y a toujours une interprétation derrière. Ils le sont. Tous les faits sont interprétés de deux manières. Les hommes sont ou théistes ou antithéistes. Toute la bataille qui se livre autour des faits est une bataille qui se livre entre deux sortes de philosophes. Tout philosophe de l'éducation est également théiste ou antithéiste. C'est une des issues majeures entre le théisme et l'antithéisme que les philosophies d'éducation théistes ou antithéistes rencontrent. Donc on voit ce climat de champ de bataille, et il va parler de la nécessité de l'accord entre les deux révélations, la révélation générale et la révélation spéciale de la parole de Dieu. L'école est un lieu de transmission de la révélation générale de Dieu. Mais la révélation générale, dit-il, et dit aussi cette parole, c'est qu'elle ne peut pas être interprétée correctement sans l'apport de la révélation spécifique qui est pertinente pour tous les domaines de la réalité. Il n'y a pas de parole de Dieu sans création, dit-il, et l'étude de la création, c'est bien le but de l'école. Il n'y a pas de création sans parole de Dieu, l'une sans l'autre ne nous dit finalement rien. Donc, la fonction de la Bible, c'est pas une sorte, par exemple dans les écoles évangéliques, mettons, c'est pas une sorte de glaçage. Vous voyez, on va faire des bons petits chrétiens, de temps en temps un peu de versets bibliques, là le matin, le soir, petite prière, ça va être sympa, le cadre va être gentil. C'est pas du tout ça. La Bible n'est pas un glaçage, ça serait qu'une pratique humaniste, sinon, elle doit être le levain dans le pain éducatif qui donne forme au programme entier, de la base jusqu'au sommet, alors qu'elle imprègne tout le programme scolaire. Je dirais pas seulement le programme, mais bien sûr tous les aspects relationnels, pédagogiques, etc. Et je crois qu'on a, on est en processus, mais je pense que dans cette parole de Dieu, il y a des implications pertinentes pour les interprétations. Tout à l'heure, on a parlé du 19e siècle avec les lois de laïcité, l'école gratuite obligatoire. On a quand même rappelé que la première, c'était à Genève, avec Jean Calvin, l'instruction pour tout le monde, gratuite pour les indigents. Et donc, ces protestants, lorsque ces lois sont venues, il y en a qui se sont offusqués. On l'a vu dans les pourcentages tout à l'heure. Certains n'étaient pas d'accord avec le fait d'enlever cette Bible des écoles. L'école sans la Bible, c'est pour nous l'école décapitée, ou pour mieux dire matérialisée, dépourvue de son moyen le plus efficace d'influence et d'éducation. Il faut que les églises évangéliques aient leurs propres écoles, qu'elles ne reculent pour cela devant aucun sacrifice. Donc nous sommes, voyez, à la fin du 19e, dans une conférence « L'école et la Bible ». Et c'est ça qui va inspirer un courant évangélique bien plus tard. La notion de foi, elle est nécessaire à la compréhension. Et on pourrait penser que la foi n'a rien à faire dans une attitude rationnelle et scientifique. Mais en fait, c'est par la foi qu'on comprend. Et qu'on comprend que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. La réalité biblique, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, former un enfant à la réalité, c'est le former avec cette vision de la réalité de Dieu, qui est beaucoup plus que ce qu'on voit, mais qui est au-delà de ce qu'on voit. Les choses visibles reflètent les invisibles. Donc mettre au contact l'enfant avec une vision biblique de la réalité nous paraît assez important, et c'est toujours question d'interprétation, parce que ça ne se fait pas tout seul. Van-t-il ? J'estime que toute l'histoire et la civilisation seraient incompréhensibles pour moi sans ma foi en Dieu. Ceci est tellement vrai que je propose de démontrer qu'à moins que Dieu ne soit le fondement de toute chose, nous ne pouvons trouver le sens de quoi que ce soit. Alors, cette conception de l'Écriture implique qu'il n'existe rien dans cet univers que l'être humain puisse vraiment et pleinement connaître sans prendre la Bible en considération. Et on sait déjà l'héritage de Calvin, l'homme comme Jésus, appelé à être prophète, à être prêtre, à être roi. Et à titre de prophète, par exemple, l'homme est appelé à interpréter ce monde, selon Dieu, à le voir, à voir comme Dieu voit, à penser comme il pense, et donc à transmettre la pensée de Dieu aussi. Et voilà un des exemples qu'on travaille, par exemple, dans nos écoles évangéliques, pour montrer comment est-ce qu'on aborde les programmes et qu'on veut les repenser. Vous avez le même fait que dans tous les programmes officiels, mais seulement on croit que enseigner en vérité, c'est se demander pour chacune de nos matières scolaires, chacun de nos sujets, la première question: quelle est l'intention de Dieu pour cet aspect particulier de la création ou de la culture que j'étudie? C'est quoi ce domaine créationnel? Qu'est-ce qui me dit de Dieu? C'est quoi cette intention? Et ensuite, comment ce dessein a été déformé par le péché, la désobéissance? Cette marque du péché qui a déformé même nos façons de voir, d'interpréter. Comment ça, dans mon domaine, dans ma matière, qu'est-ce qui a été déformé? Et ensuite, comment je peux rétablir, au moins en partie, l'amour, la justice, la droiture que Dieu a prévu dans ce monde? Cet aspect de rédemption, dans l'interprétation, dans l'enseignement. Et d'ailleurs, la notion d'enseignement, être enseignant, c'est être des signes, je rappelle, être des enseignes, être des signes, des porteurs de signes, c'est ça être enseignant. Et comment insuffler ensuite à nos élèves l'espérance, la force, le courage, en dépit des problèmes auxquels ils sont confrontés? Et c'est là qu'on voit la carence d'espérance qui est bien aujourd'hui, un peu partout, pose le problème de quelle capacité a-t-on pour éduquer si nous avons perdu l'espérance. Et donc le déficit d'espérance, je crois qu'en tant que chrétien, qu'on soit dans le public ou dans le privé, là il y a quelque chose de très fort. Quelle est notre espérance? Parce que c'est ce qu'on va transmettre. Et c'est ce qui va influencer notre façon de voir. Donc voyez, ce modèle création, chute, rédemption, qui est un modèle d'interprétation de toute la création, est ce qui va faire la différence dans la transmission et dans l'enseignement, dans l'enseignement d'une vision biblique du monde. Un professeur de Nouveau Testament, M. Brugman, dit: la tâche du ministère prophétique est de nourrir et d'évoquer une perception, une conscience alternative à la conscience, à la perception dominante de la culture. Le prophète doit être critique par rapport à la vision du monde dominante, la dénoncer, la démanteler, pour dynamiser la communauté chrétienne avec une autre vision du monde, une autre imagination. Et si on prend le rapport à la notion d'établissement évangélique, c'est un peu cette idée. C'est-à-dire, bon, c'est bien de râler, de se plaindre et tout ça, mais parfois, on peut, Dieu peut nous donner d'être des artisans pour être lumière. On est toujours des lumières, mais des lumières dans le sens de bâtir quelque chose d'alternatif qui soit l'expression de la pensée et du cœur de Dieu, non pas pour donner des leçons aux gens, mais pour bénir les gens, pour bénir notre pays avec une autre espérance, une autre vision du monde, une autre vision de l'homme. Et ça nous semble assez essentiel au niveau prophétique. Il y a un beau texte du Balzac chrétien suisse, il s'appelle Jeremias Gotthelf, dans ce roman Anne Baby Joager. Il faut lire, hein. Et regardez, c'est un texte magnifique qui nous montre un peu ce défi d'une vision du monde chrétienne. Il est plus beau et mieux de posséder deux yeux plutôt qu'un seul. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Dieu nous a donné deux yeux et l'être humain qui n'en possède qu'un restera toujours à moitié aveugle. Dieu nous ayant donné deux yeux, nous a donné aussi deux livres. Le vieux livre sacré dont un vicaire n'est pas le seul à faire l'exégèse, mais que chaque chrétien doit comprendre. Mais il y a aussi ce magnifique livre qui est vieux et pourtant nouveau chaque jour. Ce magnifique livre naît d'une source divine, comme naît un fleuve alimenté d'innombrables ruisseaux. Sur ce livre, nourri par ses sources jaillissant de chaque poitrine humaine, Dieu envoie son souffle vivifiant et le décrit feuille par feuille devant les yeux de chaque humain. Et de même que les deux yeux s'entraident de façon inexprimable, que l'un sans l'autre se sent abandonné, solitaire, réduit dans sa qualité par rapport à autrefois. Ainsi en est-il de même pour le premier livre et l'autre livre. Un livre jette sa lumière sur l'autre livre, les deux se donnent un courant de vie, et les deux livres restent pour le moins dans le demi-jour sans l'autre. L'être humain qui ne sait lire qu'un seul livre est pour ainsi dire seulement à moitié homme, doué d'une demi-intelligence, ou bien il est semblable à quelqu'un qui n'aurait qu'un œil. S'il ne sait lire que sa chère vieille Bible, il parvient certes à connaître ce qui a été, mais non ce qui est. Il comprend ce que Dieu est, mais la façon dont il règne sur le monde lui reste cachée. Il parvient à connaître les contenus de la foi, mais sans trouver son chemin dans la vie. Mais celui qui lit seulement le livre de la vie ne cesse de lire sans jamais parvenir à découvrir un sens. Bien qu'il lise toutes les phrases les unes après les autres sans en comprendre le sens, glisse une perle après l'autre sur un fil interminable sans parvenir à confectionner un collier. Il ne cesse de courir, mais sans parvenir à confectionner un collier, il ne cesse de courir sans parvenir à la sortie, cherche sans trouver ce qui est juste, il ne trouve pas l'esprit dans le corps, ni Dieu dans le monde, et c'est pourquoi il ne trouve pas le salut, car le salut réside uniquement auprès du Saint-Esprit, qui est notre Père dans les cieux. Donc voilà, ce livre de la création, qui est un livre de Dieu, et ce livre de la révélation, qui est aussi le livre de Dieu, et Dieu nous a donné deux yeux pour qu'on puisse vivre et interpréter et penser avec les deux yeux. Et donc, la notion de transmission de vision biblique du monde au niveau école, ça serait apprendre à lire avec les deux yeux, voyez. Donc sagesse, vision du monde, une vision du monde biblique s'appelle sagesse. Et quand on voit ce qui est tellement précieux, cette sagesse, dans toutes les écritures du début à la fin, en particulier dans le livre des Proverbes, qui est l'éducation d'un roi, d'un futur roi, Salomon. Écoutez mon fils, Proverbe 4, l'instruction d'un père. Donc intéressant de voir qu'ici, l'instruction, elle est dans le cadre d'une famille, d'un père qui parle à son enfant. On n'est pas dans la déconnexion de spécialistes qui forment des élèves, mais un père qui instruit. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce et t'en aura d'un magnifique diadème. Nous avons un rapport à la fois intellectuel, affectif à la sagesse. Nous avons un vocabulaire amoureux. Et ça, c'est cette sagesse biblique s'étreint comme on étreint une fiancée quelque part. Et donc ce désir de l'acquisition de la sagesse est le cœur de cette vision biblique de l'éducation que les Écritures nous laissent. Donc cette sagesse qui est si précieuse, que Salomon a convoité à tel point que quand Dieu lui dit « Choisis, demande ce que tu veux, je te le donne », il a demandé ce qui était le plus précieux pour son père, c'est-à-dire la sagesse. Il y a un aspect pratique expérimental qui n'a rien à voir avec la sagesse des Grecs ici, puisque c'est une valorisation du travail manuel, une valorisation de savoir conduire sa vie, donc une éducation qui n'aboutirait pas à savoir gouverner sa propre vie, c'est l'échec, hein, gouverner sa vie. Aspect didactique, la sagesse, eh bien, il y a un contenu d'enseignement qui se transmet, qui aide à interpréter la culture, à la façonner. Et puis, un aspect intéressant, l'aspect théologique, c'est-à-dire qu'au fond, dans les Écritures, la sagesse n'appartient qu'à Dieu seul. Dieu seul est sage. Un peu comme les Écritures nous disent, il y a un seul maître, et on l'a rappelé ce matin, et bien de la même façon, il n'y a qu'un seul sage. Et donc cette notion de l'acquisition de la sagesse en fréquentant les sages, l'imprégnation qui fait que l'éducation, selon Dieu, la fréquentation des sages, ce n'est pas la mise à part pour qu'on soit complètement inadaptés sociaux et par rapport à un monde qui est cruel et dans lequel il faut un peu tremper pour pouvoir l'affronter, ce n'est pas du tout cette idée. L'idée, c'est de fréquenter ce qui est vrai, ce qui est sage, pour que justement, ce qui est une vision biblique de la réalité du monde, pour mieux affronter justement et mieux influencer le monde dans lequel nous vivons. Nous voyons que chez Salomon, cette sagesse s'incarne de façon très particulière. Ce texte, tout le monde le connaît, ça dépend des versions, parfois c'est 1 roi 4 ou 1 roi 5, mais lorsqu'il est dit que Dieu lui a donné la sagesse à Salomon, bon, les connaissances, l'intelligence, d'accord, mais regardez, il est dit ensuite, il est dit, sa renommée se répand parmi les nations, il a prononcé des 3000 sentences, 5 cantiques, 1000 cantiques, il a parlé sur les arbres. Alors là, il a parlé sur la création, hein, les arbres, le cèdre du Liban, l'hysope qui sort de la muraille, il a parlé sur les animaux, sur les oiseaux, les reptiles, les poissons. Donc la sagesse est un discours sur la création, c'est une interprétation de la création. Et c'était tellement unique ce que les gens entendaient que de partout ils venaient écouter ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Pourtant tout le monde avait vu les animaux, les arbres et tout ça. Mais le discours, c'est-à-dire l'interprétation de la création, la vision du monde était carrément autre. Et c'est ça aussi la notion de sagesse. Donc le livre, la création, considéré comme le livre de Dieu. Et j'aime bien cette citation de Bonaventure, théologien d'ailleurs de l'Université de Paris. Nous sommes au 12e, début 13e siècle. Et voilà ce qu'un des premiers professeurs de la première Université de Paris dit, c'est quand même étonnant. « Celui que tant de splendeur crée n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris n'éveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne pousse pas à louer Dieu est un muet. Celui que tant de signes ne force pas à reconnaître le premier principe est un sot. » Ouvre les yeux, prête l'oreille à ton âme, délie tes lèvres, affûte ton cœur, toutes les créatures se feront voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer ce grand Dieu. Et plus loin, il dit, rien ne peut rendre les choses parfaits objets de science, si ce n'est la présence du Christ, Fils de Dieu et Maître. Ça, pour nous, au XXIe siècle, c'est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'a à voir la présence du Christ dans la transmission d'objets de science ? Mais là, cette idée, ce dualisme que nous vivons aujourd'hui, n'existait pas. Et la réforme va être, d'ailleurs, dont on fête les 500 ans, va briser ce dualisme. D'un côté, il y aurait le monde des sciences, de l'autre côté, le monde de la foi, comme si c'était deux mondes différents, et c'est deux mondes distincts, mais les philosophies dualistes sont à l'opposé d'une vision biblique du monde qui n'oppose pas, qui distingue, mais qui n'oppose pas. Donc, les choses visibles reflètent les invisibles, c'est Romains chapitre 1. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le refus de faire le lien entre le visible et l'invisible amène un obscurcissement des pensées, égarement des pensées. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ayant connu Dieu comment ? Par la création. Ils se sont égarés, où ça ? Dans les pensées. Et donc, on voit ici que une vision du monde qui n'aboutit pas à reconnaître Dieu dans ses ouvrages aboutit à l'égarement de la pensée. Et donc, je pense que là, en tant que chrétien évangélique, il y a un témoignage à donner, non seulement dans les structures publiques, comme on l'a entendu ce matin, et il en faut, et merci Seigneur, mais aussi dans d'autres structures qui puissent avoir un peu ce rôle prophétique de proposer une autre vision du monde, une autre interprétation des pensées qui sont ancrées et qui savent d'où elles viennent et où elles vont. Donc, adorer, se vantant d'être sage, sagesse des Grecs en particulier, ils sont devenus fous. Et voilà, et donc ils ont changé la gloire de Dieu en image, icon, idée, représentant l'homme corruptible, les oiseaux, etc. Donc, le refus de l'adoration de Dieu, dans une vision biblique du monde, c'est Dieu qui est le centre, le refus de mettre Dieu au centre, d'une pédagogie, d'une éducation, etc., automatiquement, il y aura quelque chose d'autre au centre. Ça sera l'homme, ça sera la science, ça sera tout ce qu'on veut, mais ça ne sera pas Dieu, quoi. Et donc, ce processus d'adoration, eh bien, il est bien visible, et les conséquences dans Romains chapitre 1. Donc, le livre des Proverbes, là, je ne vais pas m'étendre, je vais passer vite sur les slides, c'est pas... Dans le livre des Proverbes, on voit qu'il est, pétri d'une vision biblique du monde sous-jacente, et les premiers principes, c'est l'univers, c'est la création de Dieu. C'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, le grand combat, même au niveau européen, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un décret pour dire que tout ce qui serait enseignement dans les lieux de formation où on présenterait la notion de création, je ne parle pas seulement de créationnisme, je pense d'idée de Dieu création, tout ça, serait anticonstitutionnel. Voilà. Donc c'est vraiment, alors que c'est la base d'une vision biblique du monde, c'est la base. Donc là, il y a une bataille, il y a une réelle bataille. On veut, il y a quelque part une atmosphère qui refuse la notion d'un Dieu créateur. Dans le cours de religion, c'est très bien. Mais surtout pas que ça déborde. C'est comme nous chrétiens, si ça reste dans votre culte, c'est super, vous restez dans vos cultes. Mais ne débordez pas sur la culture, s'il vous plaît. Interdiction de déborder sur la culture. Voyez. Donc là, on voit que... Bon, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais pour vous, simplement que ce livre des Proverbes, qui semble très... Voilà, des conseils de bon sens, souvent, il est pétri d'une vision du monde. Dieu contrôle souverainement le monde. Cette idée-là, elle transparaît dans tout le livre des Proverbes. Et puis, vous avez... Le monde peut être connu rationnellement. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Et il n'y a pas que la raison, mais quand même, elle est privilégiée. Et je ne connais pas de religion autre que la religion chrétienne qui favorise et qui valorise autant la réflexion, le raisonnement et la réflexion par soi-même, etc. Ça, c'est assez fabuleux. Et la clé, la crainte de l'Éternel, on en a parlé tout à l'heure, cette relation à Dieu, eh bien, qui fait que la crainte de l'Éternel est le fondement de la sagesse, et non seulement le fondement, mais dans les Proverbes, il est dit que la crainte, elle enseigne aussi. Alors, voilà, cette vision du monde... Elle est composée de plusieurs axes, qui sont les axes de la philosophie. On ne va pas trop s'étendre. On va en voir un petit peu celui de l'épistémologie. Et vous allez voir comme quoi c'est... il y a une bataille aujourd'hui au niveau de l'épistémologie. Et cette bataille, c'est, voilà, ces questions. Qu'est-ce que la vérité? Alors aujourd'hui, on ne croit plus en la vérité. Donc le relativisme est la religion aujourd'hui dans toutes les structures d'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des vérités scientifiques ou des faits. Et sinon, il n'y a plus de vérité. C'est à chacun de faire sa vérité. Donc, relativisme. Cette philosophie-là, elle véhicule une vision du monde très particulière et forme une façon de penser aussi. Donc, comment puis-je la connaître? D'où vient la science? Comment apprendre la vérité? Est-elle absolue? Donc, ces questions, la vérité... Alors, je ne vais pas m'étendre. Ce slide, je ne l'ai pas mis pour qu'on puisse le voir en détail. Mais la Bible, elle est très claire sur la notion de vérité. Dieu est la vérité, Christ est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. La vérité, c'est ce qui est en accord avec la réalité, c'est pas indépendant, c'est en articulation. Hein. La vérité, elle décrit les faits, précisément. Elle explique aussi la réalité. Et d'où vient-elle? Elle vient de Dieu, elle est centrée sur Christ. Et toute vérité est vérité de Dieu. C'est la fameuse phrase de Saint-Augustin, qui, dans son livre Le Maître, qui parle justement de la problématique de l'éducation, il va dire que toute vérité, historique, scientifique, physique, etc., linguistique, est vérité de Dieu. Et donc, cette idée de relier à la source la pensée et tous les domaines de l'épistémologie, ça, c'est une vision biblique du monde qui est transmise. est la nature de la vérité, centrée sur Christ, absolue par relative, universelle, applicable par tous les hommes, surnaturelle, révélée par Dieu, révélée aussi par le raisonnement. Je peux aussi raisonner. La révélation ne va pas contre la raison. Hein. Elle fait autorité. D'ailleurs, autorité, c'est intéressant. Autorité, ça vient de auteur. Hein. Autoritas, auteur, ça veut dire reconnaître l'auteur. Je pense que nous, chrétiens, on a l'occasion de libérer une véritable autorité dans le monde de l'éducation, parce que nous voulons être soumis à l'auteur. Et quand on est soumis et qu'on reconnaît l'auteur, on a l'autorité pour enseigner. Et donc on refuse l'auteur, on perd l'autorité. À mon sens, il y a une crise spirituelle de l'autorité aujourd'hui. La véritable fondement de l'autorité, elle se trouve dans l'autorité qu'est Dieu. Et Jésus qui a dit, j'ai toute autorité, donc je dis enseigner. L'autorité pour enseigner vient de l'autorité de Jésus-Christ. Et ça, on pourrait encore parler dessus, c'est pas trop le but. Comment est-ce qu'elle est communiquée cette vérité? Eh bien, elle est révélée par la création aussi. Et elle est révélée par les Écritures, elle est révélée par Jésus-Christ. Et donc, on pourrait dire qu'une transmission de vision biblique du monde s'appuie sur ces trois domaines en même temps, pas de façon séparée, ou dualiste, ou autre. Comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus croissait en stature, en grâce, en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Je peux percevoir cette vérité avec les sens, la raison, la révélation, l'intuition, le Saint-Esprit, l'enseignement. Donc, qu'est-ce que font les hommes? Ben, souvent, ils vont dire, ben, voilà, la vérité, je peux la percevoir seulement au travers des sens. D'autres qui vont dire, seulement par la raison. Dès qu'on enlève Dieu et cette grande image de cette vision biblique de la vérité, on va loucher sur un des points et on va devenir pédagogie rationaliste, pédagogie empiriste, etc. Et on réduit le champ et la richesse, en fait, de ce que Dieu a pour nous. Et la vérité, elle peut être, bien sûr, découverte par la raison, l'expérience, mais aussi vérifiée avec les Écritures, étalons de mesure finale. Alors, les confrontations, ben, les champs de bataille, eh bien, on l'a un peu vu. L'empirisme, il n'y a que l'expérience qui compte. Hein. On dirait le rationalisme, il n'y a que la raison. Tout le reste, on n'en veut pas. Alors là, les Français, on est un peu fort là-dessus. Le scepticisme, ben, la connaissance est impossible. Donc, on croit en plus rien. On veut croire en plus rien. La position chrétienne, ben, je pense, c'est la connaissance, c'est le produit de la pensée, une réponse à la révélation générale et particulière de Dieu. Donc ça, c'est juste le domaine épistémologique, vous voyez, mais, qui est un des domaines de la vision du monde, mais qui me paraît déterminant dans ce champ de bataille que nous vivons aujourd'hui. Je prends l'exemple de la connaissance. Une vision séculière nous dirait que c'est l'accumulation d'informations. La vision biblique, la connaissance est active, elle demande une réponse à Dieu. Toute connaissance demande une réponse. Hein. La connaissance n'a rien à voir avec l'amour, vision séculière. Vision biblique, connaître, c'est aimer. Alors ça me paraît bizarre, mais quand on revoit les fondements épistémologiques bibliques, il n'y a pas de connaissance sans amour. Le mot yada est employé quand Abraham a connu sa femme. C'est les relations dans le mariage. Et c'est ce même mot qui dit « tu connais le monde de la même façon que tu connais ta femme ». C'est-à-dire tu ne peux pas le connaître en dehors de l'amour et de l'alliance. Donc ça, il y a vraiment des pistes ici, où je prends de réflexion pour nous. La connaissance séculière, elle est impersonnelle. La connaissance, selon nous, elle est personnelle. J'aime beaucoup Paul Claudel qui parle de connaître, c'est connaître. S'il y a une vraie connaissance transmise à un enfant, il y a une naissance de quelque chose. Ça, c'est le mot français nous indiquerait cette notion de naissance quand il y a une vraie connaissance. Elle n'a pas besoin de cadre, vision séculière. C'est le cadre de l'alliance, le père qui parle à son enfant, le cœur du père, le cœur de la mère, cadre de l'alliance. Elle vient des sens, de la raison, de l'intuition, de l'autorité, vision séculière. Tout ça, c'est juste. Elle vient aussi de la révélation, vision biblique. La connaissance n'a pas forcément d'application pratique. Ça, c'était le problème des Grecs. Hein. La théorie, parfois, au détriment de l'application pratique. La connaissance biblique, c'est « je mets en pratique ». Sinon, je ne connais pas. Et puis, elle n'engage pas ma responsabilité, mais le terme « yada » engage ma responsabilité. Donc, vous voyez, on prend un mot, le mot « connaissance », on le décortique, on trouve les racines bibliques, etc. Et à partir de ce mot socle, on déduit les conséquences au niveau d'éducation, que ce que ça peut donner. Voilà un peu comment on peut... Donc le mot yada, vous voyez, accusation d'information, tout le monde est d'accord, compréhension des choses, tout le monde est d'accord, exercice de la responsabilité, là ça commence à coincer parfois, engagement éthique, hein, Et puis, en fin de compte, cette connaissance amène à la connaissance de Dieu, toute connaissance amenant sur le chemin de la connaissance de Dieu. Donc il n'y a pas deux mondes, le monde de Dieu et le monde des hommes, il y a un seul monde. Alors là, je ne m'étends pas, mais au niveau de la vision de l'enfant, la vision de qu'est-ce qu'un homme, la réponse que je vais donner à cette question va déterminer mes pratiques éducatives. Si je pense qu'un enfant, c'est un animal évolué, eh bien sûr, je vais éduquer comme, avec cette vision-là. Si je pense que c'est un être éternel, voulu par Dieu, à une destinée éternelle, je ne peux pas enseigner pareil, parce que je n'ai pas la même définition. Donc, ces définitions que j'ai en tant qu'enseignant chrétien, ma vision biblique va déterminer, influencer mes pratiques. Voilà. Donc l'anthropologie biblique me paraît une grande richesse aujourd'hui, dans un monde qui bouscule toute l'anthropologie aujourd'hui. Théorie du genre, etc. C'est un bousculement frontal de l'anthropologie biblique. Et quelque part, on peut se dire, mais bon, on est dans un monde qui est libre, on peut s'exprimer, on peut le dire librement, hein, c'est le CNEF, on peut enseigner librement aussi. Et c'est ça la magnifique nouvelle. Constitutionnellement, on peut enseigner selon nos philosophies et nos croyances. Donc les amis, pourquoi on s'en priverait, hein, c'est ça. Alors, vision de l'enfant de Luther. Alors Luther, réformateur, c'était pas un pédagogue dans le sens, mais il a influencé la pédagogie à cause de sa vision prophétique de l'éducation. Si Dieu t'a donné un enfant apte à exercer un tel office, tu n'en tiennes pas compte, tu considères seulement le ventre, la nourriture temporelle, regarde le registre qui est établi là-haut, parcours-le de façon à voir les bonnes œuvres, les miracles qui sont indiqués, tu verras alors quel faux dévot, quelle mauvaise herbe tu es. Car dans la mesure où ça dépend de toi, tu enlèves à Dieu un ange, un serviteur, un roi, un prince dans son royaume, un sauveur, un consolateur des hommes dans leur corps et leur âme, leur bien et leur honneur, un capitaine, un chevalier contre le diable, et ainsi tu cèdes la place au diable, tu favorises son règne. Donc, on voit que la vision de la réforme au niveau de l'éducation n'a jamais été la protection, la surprotection, les petits abris, les petits cocooning. On est dans un monde de bisounours, on va te montrer, voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une idée agressive, absolument, de la formation de capitaine et de chevalier contre le diable. Les écoles protestantes ont été bâties avec cette vision-là de l'homme et de la formation nécessaire pour préparer les enfants à être pertinents et influençants la société et la culture. Et alors, les catéchismes qui étaient dans toutes les écoles protestantes, ils transmettaient non seulement une vision de Dieu, mais une vision du monde. Et une vision, par exemple, une anthropologie. Quel est le but de la vie? C'est de connaître Dieu car il nous a créés. Et comment tu peux l'affirmer? S'il nous a créés et placés dans ce monde, c'est pour être glorifié en nous. Cette vie dont il est le créateur, n'est-il pas juste de consacrer à sa gloire? Donc, depuis la plus tendre enfance, l'objectif, c'est la gloire de Dieu. Je suis son image. Et ça, c'était pétri dans toute la formation intellectuelle depuis le plus jeune âge. Donc, c'est une vision du monde qui est transmise. Comenius, on l'a lu tout à l'heure, encore une autre citation de lui. Il y a de nombreuses raisons au plaisir que prenait le Christ à la compagnie des petits-enfants, aux ordres qu'il nous a donné d'en prendre de plus grands soins. Si les enfants te paraissent méprisables, ne les regarde pas tels qu'ils sont à présent, mais tels qu'ils doivent être dans les intentions de Dieu. Tu les considéreras alors comme les futurs habitants du monde, les propriétaires de la terre. Propriétaire de la terre, intéressant, comme, pas seulement du ciel, vous voyez. Les vicaires de Dieu parmi ses créatures, mais surtout comme les parents du Christ, au même titre que nous. Un peuple choisi, les pères des anges, les juges des diables, les délices du ciel, la terreur des enfers, les héritiers des plus grandes dignités pour les siècles des siècles. Peut-on concevoir quelque chose de plus grand que les enfants? C'est pas étonnant qu'avec une grande vision de l'enfant, ça ait fait une grande pédagogie. Vous voyez. Donc plus la vision est grande, plus la pédagogie est riche. Et l'enseignement est pertinent et plein de sens. Donc aujourd'hui, je pense que cette notion d'anthropologie, de vision de l'enfant, est capitale aujourd'hui, alors que nous sommes dans un monde qui réduit petit à petit la vision de façon drastique. Vinet, pédagogue, enfin théologien, pasteur évangélique du 19e siècle suisse, le chrétien seul conçoit toute la dignité de l'instruction. C'est l'héritier du ciel qui forme dans ses écoles. C'est en vue d'un bonheur spirituel éternel qu'il apprend à fond à lire, à écrire. Ses maîtres sont en quelque sorte des apôtres, ses élèves des prosélytes, ses écoles des temples. Et la science qu'il enseigne, la science même de Dieu. On fait un saut au XXIe siècle, Monsieur Payon qui dit « Les écoles, ça doit être les nouveaux temples. Ça sera les temples de la République. Les apôtres, ce sont les hussards, ce sont les enseignants de la République. Et les principes de la République et les valeurs, ça sera les nouvelles tables de la loi. » Donc on est dans une bataille. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Et son idée. Alors là, il a écrit ça alors qu'en France, les grandes lois de laïcité étaient en train de se mettre en place. Nous sommes à la fin du 19e. Et voilà ce que Vinet écrit du côté suisse. C'est sa vision d'un Suisse de ce qui se passe en France. L'idée de former l'homme tout entier dans les écoles de la patrie, n'est pas encore venue à bien des gens. C'est que le respect de l'homme nous manque. Qui pourrait s'en étonner lorsque toute idée élevée sur son origine et sa destination s'est peu à peu effacée de la plupart des esprits? Aussi suis-je persuadé que si jamais cette importante réforme est opérée, qui doit faire des écoles une fabrique d'hommes et de l'instruction un hommage à la dignité de notre nature, elle sera due à des hommes éclairés d'une autre lumière que celle que nous voyons briller en France, à des hommes que le respect des choses divines aura conduit au respect de l'humanité et qui auront appris à reconnaître l'héritier du ciel dans le fils de la poussière. C'est bien dit, mais ça, nous avons ici cette vision biblique, je pense, de la formation. Cosmologie, on ne va pas en parler. La vision que nous avons de la Terre va déterminer mes pratiques aussi d'interprétation. Hein. L'axiologie, quelles sont les valeurs, mes valeurs, donc tout ça. Alors, voilà, tout ça, c'est l'ingrédient, ce sont les ingrédients qui vont faire la vision, constituer la vision du monde. Donc l'importance de transmettre une vision biblique du monde, c'est capital, c'est le rôle de l'Église, d'enseigner. Et enseigner, c'est pas seulement enseigner la parole de Dieu, mais c'est enseigner la création, l'interprétation de la parole de Dieu sur sa création, c'est-à-dire transmettre des paires de lunettes, comme dit Calvin, nouvelles. La vision chrétienne du monde, c'est l'unique vision du monde qui explique de façon cohérente tous les faits de la réalité dans les domaines de la théologie, de la philosophie, de l'éthique, de l'économie ou de quoi que ce soit d'autre. Et je pense que cette vision chrétienne, on pourrait démontrer, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais sa richesse, sa pertinence pour tout. Regardez, vous démarrez le livre de la Genèse, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ramification théologique, philosophique. Genèse 1, 21, selon leur espèce, ramification biologique. Genèse 2, 7, un être vivant, âme vivante, ramification, conséquence psychologique. Genèse 1, 28, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Sociologie, écologie, historique, on pourrait dire aussi. Genèse 3, 11, je t'avais défendu la notion de droit juridique. Genèse 9, 6, celui qui verse le sang de l'homme, la notion politique, légale. 1, 29, ce sera votre nourriture, tout ce côté économique. Genèse 3, 15, il y aura inimitié entre toi et la femme, une dimension historique, entre autres. Et donc, c'est une diapositive que je tire de M. Nobel, qui a écrit un livre « Discerner les temps ». Et il montre en théologie, Jésus, il est la plénitude de la divinité. En philosophie, Christ est le Verbe de Dieu. Moi, quel régal, avec les terminales, de commencer une année en écrivant au tableau, c'est pas encore le numérique chez nous, j'espère que ça viendra, le vrai philosophe, c'est celui qui aime Dieu. Et ça, le temps est donné, avec l'intégration des programmes officiels, mais la perspective et le temps est donné. Et voilà. Donc, en philosophie, il est cette sagesse. Il est la sagesse. C'est ça qui est magnifique. En éthique, il est la lumière. En biologie, il est la vie. En psychologie, il est le sauveur. En sociologie, il est le fils. En droit, il est le législateur. En sciences politiques, simple, roi des rois, seigneur des seigneurs. Sciences économiques, propriétaire de toutes choses. En histoire, c'est son histoire. On a notre professeur, le directeur qui est là, Patrick Schmitt, il me dirait mieux que moi, mais Christ est l'alpha, l'oméga. En éducation, ça j'ai rajouté, Christ est le seul maître. Et on pourrait prendre tous les champs de la connaissance. Le Christ, en lui, sont cachés. Ça, c'est le problème, c'est caché. Hein? Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et cette supériorité de la vision chrétienne du monde, en théologie, l'évidence de l'existence d'un Dieu personnel, saint, un univers choisi, une terre préparée pour l'homme, c'est tellement plus de poids que tout argument en faveur de l'athéisme ou du panthéisme. En philosophie, la notion de verbe, la parole, le logos, qui précède la matière, tellement supérieure à toute déclaration athée au sujet de la matière qui aurait précédé la pensée. En biologie, le concept d'un Dieu vivant, créateur de la vie, s'accorde mieux à l'évidence que toute allusion à la génération spontanée ou à l'évolution. En éthique, l'idée selon laquelle le mal et le bien sont des absolus basés sur la nature et le caractère de Dieu personnel, aimant, juste, bien supérieur à la fois théoriquement, pratiquement aussi, à tout concept découlant du relativisme. En droit, la conception selon laquelle Dieu est toujours et de façon absolue l'injustice, tellement supérieure à tout ce qui est relativiste, etc., etc. Je ne vais pas lire le reste, mais je trouve ici on peut être fier et à la fois défier de cette beauté, du dépôt que Dieu nous a donné, qui est cette vision du monde. Et donc, le but de l'éducation, au fond, c'est de transmettre cette sagesse. Là, vous avez l'image de Salomon et David. David qui transmet à Salomon. Mais dans cette transmission, transmettre, eh bien, il y a un beau livre que je vous conseille, magnifique, qui s'appelle de Catherine Chalier, sur transmettre de génération en génération. C'est une juive qui a enseigné, je crois, dans le public aussi, mais qui est professeur de philosophie dans le public, et qui dit ceci: la crise des actes de transmission dans les sociétés occidentales contemporaines, qui préfèrent à la suite de Descartes la mise en doute de tout ce qui est transmis, plutôt que de se mettre à l'école d'un maître ou à l'écoute des traditions. L'acte de transmettre se heurte à la volonté de l'homme d'être un sujet différent, singulier, unique, qui revendique sa singularité. L'homme veut organiser sa propre vie, organiser sa loi particulière en niant ce qui s'inscrit dans une histoire individuelle et collective. Et donc on voit cette crise de transmission, elle concerne tout l'homme, dit-elle. Toute idée de transcendance qui est absolue, elle est contestée au profit de choix individuels. L'apparition des nouvelles configurations familiales, nouveaux modes de procréation, tout ça, ça remet en cause la légitimité de la transmission. On est dans une société qui veut peut-être la fraternité, mais qui refuse beaucoup la paternité. Et du coup, on ne veut plus de maître quelque part. Et donc vraiment, cette crise de transmission pose problème. Et je pense que nous avons l'opportunité, nous, et l'ordre de mission que Dieu nous a donné, qui est de transmettre, qui est d'enseigner, qui est être un signe dans cette génération. Et transmettre, c'est plus qu'informer, c'est plus qu'expliquer, c'est plus que démontrer. C'est transmettre, plus que transmettre des faits, c'est aussi écouter. Écouter ce que Dieu dit, c'est aussi raconter. Transmettre du sens. Il y a une dimension charnelle, psychique, spirituelle à cet acte de transmission. Je pense que l'éducation doit être revue, je pense, toute sa vision, dans ce contexte de la transmission biblique et de ce grand héritage. Il n'y a pas d'éducation possible sans espérance. Il n'y a pas de transmission sans espérance. Il y a une crise d'espérance aujourd'hui. Il est déterminant que les chrétiens, que ce soit dans le public ou dans les structures privées, soient porteurs de ce que Dieu dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Et la transmission, elle élève, d'où le nom élève pour nos écoles. C'est les élever avec une autre vision. Et je termine avec cette belle image de deux rois, l'enfant qui était promis par le prophète et que la Tsunamite attendait depuis longtemps. Et puis il naît enfin, l'accomplissement de la promesse se fait et il y a un moment, il veut rejoindre son père et sur le chemin, il prend sa tête et il dit « ma tête, ma tête ». Et il revient sur les genoux de sa mère et il meurt. Première phase. Et je pense que dans nos têtes, on est parfois farci de philosophie de ce monde qui empêche une génération à discerner l'appel de Dieu, la volonté de Dieu pour elle. Et du coup, cette tête, ça ne remet pas en question le salut, mais ça remet en question la façon de voir le monde, de se voir soi-même et d'être pertinent dans ce monde. Et heureusement, l'histoire ne se termine pas là. Le prophète Élisée va se coucher sur l'enfant, met sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et là, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir les actes de l'éducateur. C'est-à-dire, on se couche sur cette génération, sur l'enfant. La bouche, c'est la parole. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est une parole de vérité, de vie, d'encouragement, tu peux y arriver, tu as une destinée, tu es aimé de Dieu, je t'aime de façon inconditionnelle. Vous voyez, la parole qui donne la vie, et ça c'est l'héritage de l'enseignant chrétien. Et ça ne suffit pas pour cette résurrection. Les yeux sur les yeux, les yeux nous parlent d'une vision du monde, une autre façon de voir les choses. Et cette autre vision du monde, ça amène une grande espérance. Ça amène une grande espérance. Et du coup, ça motive pour l'action et la responsabilisation. Les mains sur les mains, ce qu'on fait, ils vont le faire. Et donc, le modèle, le principe du modèle qui est tellement important. Et enfin, on voit que l'enfant a commencé à... Sa chair s'est réchauffée et il s'est relevé. Je crois que là, nous avons vraiment un défi de la transmission d'une autre vision du monde que celle qui est véhiculée aujourd'hui. C'est notre responsabilité, c'est notre défi en même temps. Et nous tâtonnons encore dans cette jeunesse des écoles protestantes évangéliques qui sont comme un petit bébé, un petit enfant qui commence à marcher. Mais voyez ce qui est derrière, c'est vraiment une cohésion avec notre foi et avec le Christ en lequel et en lui seul en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà, merci bien pour votre attention.